France Culture.
La profanation a généralement besoin de sérieux. Pierre Jourde, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre, l'émission sérieusement profanatoire qui reçoit ce soir à l'occasion de la sortie chez Gallimard de son roman Monstre, La Marchande d'oubli, le romancier historien des lettres Pierre Jourde, spécialiste insigne de Huysmans, polémiste littéraire, affleuré, démoucheté, romancier. Pierre Jourde nous offre avec La Marchande d'oubli, imposant concerto noir pour famille de clowns et aliénistes en rupture de banc, un condensé capiteux de l'horreur gothique et des abysses psychiques fin de siècle. Quand Gris Psou et Charcot sont sous un chapiteau, que se passe-t-il? Réponse ce soir au cirque Mauvais Genre. Chronique en second temps d'émission, signée Sixtine Audebert et Sean Rose. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre qui après 30 ans, avant-garde, oh là là, j'y arrive plus, ça commence bizarrement, de Céline Ménard que nous avons reçue la semaine dernière, s'attaque à un autre monstre d'une nature différente et d'un projet qui n'est pas similaire, La Marchande d'oubli de Pierre Jourde, un épais roman paru chez Gallimard et qui est vraiment un des événements mauvais genre et un des événements littéraires importants de cette rentrée. Cette émission vous en dira plus, bien évidemment. Bonsoir Pierre Jourde.
Bonsoir.
Pierre Jourde, que j'avais déjà eu le plaisir de recevoir à France Culture, mais c'était pour un mal des Indes, on parlait du Ladakh.
Ah oui, c'est vrai.
Vous étiez allé au Ladakh.
Aux Anskars, surtout.
Aux Anskars, bon, ouais. Ça, je vous laisse libre.
Avec des patogas, voilà. Et un petit polo.
Alors là, c'était un récit de voyage, ouais. Le randonneur intempérant, très bien. Et puis, vous êtes venu plus récemment avec André Guyot, votre confrère, pour le Huysmans en Pléiade. Alors ouais. Là, ça se rapproche plus de votre, je dirais, de votre spécialité universitaire, puisque là, vous avez enfin donné un Huysmans à la Pléiade, ce que la Pléiade a longtemps hésité à faire, d'ailleurs.
C'est Houellebecq qui a déclenché la chose.
Merci Houellebecq.
Merci Houellebecq, oui, oui. Et ce qui m'a étonné beaucoup, c'est que ça a eu un énorme succès, cette Pléiade.
Voilà. Parfait. Ben, la Pléiade, contrairement à ce qu'on peut penser, est une collection qui peut être commercialement très, très, très fructueuse pour la maison Gallimard. On se dit, oui, c'est forcément un peu de prestige. Mais non, ça peut avoir d'énormes succès, la Pléiade.
Oui, mais... les librairies étaient pleines pour les rencontres. Je pensais que Huysmans, c'était du second rayon. Il est passé au premier.
Bah écoutez, très bien. Et vous êtes ce soir avec nous pour la Marchande d'oubli. Vous avez publié il y a quelques années un recueil d'études qui s'appelait « Littérature monstre ».
Oui.
Et là, c'est un roman monstre, parce qu'il fait près de 650 pages.
En grand format. Donc.
En grand format, en folio, ce sera le double. On aura 1000 pages, j'imagine.
Oui.
C'est un roman somme, c'est quoi? Parce que jusqu'à présent, vous avez pu, on ne va pas commencer à peser et à faire le compte des pages, mais vous n'aviez pas publié d'énormes romans.
Et ah là, si. Brusquement. Bah si. Le Maréchal Absolu était encore plus gros.
Ah bon?
Ah bah oui.
Je l'ai raté celui-là. Alors la Marchande d'oubli est quand même extrêmement volumineux.
Oui, oui. Et j'ai publié Festin secret qui ressemble un peu à ça, qui faisait 550 pages. Donc si, j'aime...
Il faut que je complète alors ma...
Parfois je me lâche.
Oui, oui. Et là donc, avec cette Marchande d'oubli, vous êtes totalement lâché, puisqu'il y a véritablement une sorte de... C'est une espèce de roman, de grande basilique littéraire.
Ben, en fait, j'ai...
plusieurs sujets différents.
J'ai tenté de faire une sorte de... Gesamtkunstwerk.
C'est-à-dire ?
Une œuvre totale.
Oui.
À la manière de Wagner, qui voulait dire... qui disait qu'il voulait faire une œuvre totale, puisqu'on parle de littérature, de poésie, de peinture, de musique. Donc, il y a un peu tous les arts qui se réunissent là-dedans.
Oui, c'est polytechnique, tous les arts sont là, mais il y a aussi tous les plusieurs pays européens, la ville et la campagne, des laboratoires psychiatriques, les aliénistes, des cirques. Il y a vraiment une totalité, une variété de lieux et d'espaces totales.
Donc, c'est difficile de faire un pitch. là-dessus.
Mais on va pas le faire dès maintenant.
Parce que
quand même essayer.
Je parle de ma maman ou je parle de mon papa, là ça va.
Oui.
Mais là j'aurais du mal. Sinon, ce que je pourrais résumer en disant que je voulais faire au roman ce que serait au film un remake des Enfants du Paradis par David Lynch. C'est
voilà,
un peu ça.
Bah voilà. C'est très bien. Ça donne une assez bonne vision, effectivement, de l'ensemble.
Et d'ailleurs, les films de Lynch ont beaucoup influencé mes romans. Je pensais à certaines images de lui en écrivant.
Bah on va en savoir plus avec vous. Pierre Jourde, sur cette marchande d'oubli, je serai entouré ce soir de Sixtine Audebert. Bonsoir.
Bonsoir, cher François.
Actualité de Sixtine Audebert. Est-ce qu'il y a une actualité de Sixtine Audebert?
Il y a une rentrée très chargée, de toute façon, à la fois universitaire, journalistique, avec Mauvais Genre, bien sûr, avec Mad Movies aussi. Dans le dernier numéro, dernier numéro, j'annoncerai la ressortie salle le 17 septembre de la trilogie d'Araki avec Nowhere, Doom Generation et Totally Fucked Up, dans l'autre sens bien sûr. Et puis évidemment une rentrée aussi éditoriale qui est assez chargée puisque je suis en train de mettre la dernière main avec mon complice Samuel Guirand à un grand chantier qui a commencé il y a un an déjà et qui paraîtra vraisemblablement début janvier 2026 sur un livre d'entretien consacré à la cinéphilie extrême, on va dire.
Cinéphilie donc, extrême.
Une collection de portraits qui donne voix aux spectateurs qu'on entend moins souvent, les plus assidus des salles obscures, des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, qui atteignent, pour les plus habités, les 1000 séances par an.
Très bien. Donc, c'est les auditeurs de Mauvais Genre qui seront à l'honneur. Bonsoir, Sean Rose.
Bonsoir.
Et vous, une actualité?
L'actualité, dans cette moisson, il y a une moisson littéraire très belle. C'est une très belle rentrée, je trouve, donc, dont fait partie votre beau roman, La Marchande d'oubli, Pierre Jourde. Mais moi, j'ai sélectionné celui de Grégory Le Floch,
oui,
Peau d'ours.
Qu'on connaît bien Mauvais Genre et qu'on retrouvera dans
Ours au féminin, Peau d'ours.
Voilà. Très bien, on verra ce roman donc de Grégory Le Floch à la fin de l'émission en chronique. En attendant, j'avais demandé à Laurent Polleret d'évoquer un petit peu ce qui est pour lui l'atmosphère de La Marchande d'oubli et voilà le résultat. Voilà ce qu'il en est advenu, comme on dit dans les romans. Voilà, Pierre Jourde, réaction. On entend quand même quelques rumeurs de frics. Plus...
Oui. Non, c'est... l'ambiance est assez bien donnée, je pense. C'est-à-dire inquiétante, un peu...
Lourde. Poisseuse.
Oui, c'est ça. Exactement ça.
Donc on retrouve le climat général un petit peu de cette marchande d'oubli.
J'aime bien écrire des livres qui me font peur à moi. Et c'est ce que j'ai fait aussi. Puisque quand j'étais enfant, j'avais une toute petite chambre avec un placard. J'avais 3 ans et la nuit, je voyais des clowns sortir du placard.
Ah ben voilà, donc on sait une des sources possibles de La Marchande d'oubli. Vous aimez les livres qui vous font peur et écrire des choses qui vous font peur. Vous parlez à un moment, au tout début du roman d'ailleurs, de gens qui... Vous parlez de ces choses qu'on ne peut dire que dans le noir. C'est un peu aussi un roman que vous avez dû écrire dans le noir, La Marchande d'oubli. Il y a quand même c'est un roman de l'obscurité, de la pénombre, du crépuscule.
Depuis très longtemps, j'aborde la question du mal dans mes romans, à la suite de Barbet, de Bernanos, etc. Et donc, Alastair, le personnage principal...
On va faire un petit synopsis pour...
Et l'incarnation du mal. Mais en même temps, il est fascinant. Parce que le mal est toujours fascinant. Il nous attire, le mal. Comme, je dirais, comme l'être est toujours attiré par le néant. C'est ce que j'appellerais le vertige métaphysique. Et donc, on est attiré par ça. Donc, je pense qu'il y a des scènes qui sont à la fois... j'aurais dit belles, mais en même temps qui font mal à l'aise, parce qu'il y a de la nécrophilie, il y a des assassinats, il y a des scènes de cruauté. Le personnage principal est extrêmement raciste. Bref, tout ce qui arrive à nous déplaire, mais qui est en nous. Parce que Alastair est tout le monde, en fait. Il y a une foule. Il y a un monde fou en lui.
Alors, on va savoir qui est Alastair. Vous avez beaucoup travaillé comme universitaire sur toute cette lignée, on peut dire, littéraire des 19e et 20e siècles. Barbet d'Aurevilly, bien évidemment, mais sur Huysmans, vous êtes un spécialiste important. Bernanos, on en a parlé. Léon Blois, Jean Lorrain, toute cette littérature fin de siècle. Tout ça lié à des problématiques aussi, celles du spectacle, du cirque, qu'on retrouve dans La Marchande d'Oubli. Ce sont des gens qui ont d'abord et avant tout posé la question du mal, on est tout à fait d'accord, qui ont tenté de résoudre non pas la question du mal par la littérature, mais peut-être de la circonscrire un peu mieux, de l'éclairer d'une manière peut-être plus précise. Est-ce que pour vous, ça a été l'enjeu majeur de La Marchande d'Oubli, d'une certaine façon, éclairer non pas la question du mal, mais cette fascination que vous aviez ou qu'ont les auteurs sur lesquels vous travaillez pour le mal ?
Oui. Alors, je suis parti, effectivement, d'une fascination de cette époque pour les clowns anglais qui sont venus en masse en France. Ils ont eu un très gros succès, mais aussi aux États-Unis, en Espagne, partout, parce que ça rompait complètement avec nos traditions des mimes, de bureaux, etc., Pierrot, etc. Et c'était à la fois spectaculaire, acrobatique et funèbre. Et c'était le spectacle du mal gratuit. Voilà. Et du non-sens, parce qu'il n'y avait aucune suite dans les actions qu'il représentait. C'était ce que Huysmans appelait l'humour anglais. C'est-à-dire quelque chose qui part hors de notre logique française. Et pour moi, pourquoi est-ce que j'ai parlé des clowns ? Vous voyez bien, c'est presque une tradition, le clown assassin. Dans les films fantastiques, il y en a plein. Pourquoi ? Parce que le clown est quelque chose, est quelqu'un, si j'ose dire, qui n'est pas prévisible. Il n'a pas de détermination. Il n'a pas de psychologie, il n'est personne. C'est juste une pulsion qui s'exprime et on ne sait pas comment elle va s'exprimer. Et en plus, avec toutes les violences qu'il effectue, il rit tout le temps. C'est exactement ce que fait le diable, en fait. Il rit de ses propres violences. Donc pour moi, les clowns étaient l'incarnation du mal, en effet.
Ce qu'ils sont devenus d'ailleurs aujourd'hui, depuis quelques décennies, c'est-à-dire que la figure nocive, sarcastique, sadique, qui prévaut dans l'imaginaire, c'est celle du clown. Alors il y a le Sad de Stephen King, à la fois en littérature et au cinéma, il y a le Joker de Batman, là aussi le littérature Joker, de sûr. Comics et cinéma. On peut dire que cette vision, je dirais, du mal comme une espèce de oui, en partant de L'homme qui rit de Victor Hugo, devenu un grand film grâce à Paul Lénie, Fellini, le film allemand, muet, il y a toujours ce triomphe peut-être d'une vision d'un mal hilar, d'un mal sarcastique, d'un mal qui n'est pas quelque chose de recroquevillé, mais qui au contraire rayonne, c'est une espèce de Méphistophélès sadique.
Oui, tout à fait.
Chaude rose.
Oui, alors pour parler du vertige du mal, il me semble que dans le clown, il y a cette réversibilité, en fait, entre le rire et la méchanceté, le comique. Et l'univers du cirque est d'autant plus, il y a une espèce de schadenfreude, de joie de voir le mal. Donc c'est le mal en nous, finalement, ce voyeurisme, ce côté sadique.
Exactement.
À voir des monstres, à voir des gens humiliés. Donc ça, c'est quelque chose qui est au cœur même de ces foires où on montre des freaks, des ouais. êtres tératologiques.
Alors ça, c'est encore autre chose.
Oui, hein, mais il y a quand même tout cet univers qui traîne autour du clown. Mais cette irréversibilité, vous dites qu'il n'y a pas de logique, eh bien c'est ça qui fait qu'il y a un vertige du mal. Parce que justement, le logos, il est raisonnable, il est donc sage. Et le fait qu'on puisse passer du rire à la violence, ça, c'est ça qui trouble et qui fait peur.
Oui.
Pierre Journe.
Alors, l'exposition des monstres, qui se faisait beaucoup à cette époque, évidemment, ça s'est passé maintenant, c'est aussi un roman sur le voyeurisme. C'est-à-dire sur la domination, en fait. On voit des gens, on les regarde, ils sont devenus purement objets pour nous, et nous sommes la conscience. Donc on les domine.
Alors, essayons, Pierre Jour, de résumer un petit peu l'histoire complexe, éclatée et en même temps très très rigoureuse, qui est celle de la marchande d'oubli. Il y a d'abord une famille, là, vous parliez des clowns anglais. Là, c'est une famille de clowns français qui ont un succès international au départ et puis qui après rentrent en décadence et deviennent une petite...
Alors, qui part d'une...
Les Elkins.
D'une réalité historique.
Voilà.
Les Hanlonlys, donc, dont parlait Zola, dont a parlé Huysmans, Banville aussi, je pense. Une famille de clowns anglais qui représentait des spectacles macabres, par exemple des décapitations, des choses comme ça, et qui ont un succès international. Et à un moment, ils étaient cinq. À un moment, un des clowns est tombé sur la tête, est devenu fou. On l'a enfermé dans un asile. Et il a refait plusieurs fois la scène de sa chute en se fracassant la tête sur le tuyau de chauffage.
Ce que vous racontez dans le roman, d'ailleurs.
Et il est mort comme ça. Alors j'ai repris cette histoire... et Alastair,
donc,
ne meurt pas, contrairement au Hanlonly, mais il perd la mémoire et disparaît.
Alors, cette famille s'appelle la famille Elkin. Alors, au début, je m'étais dit, tiens, mais Elkin, ça me fait penser à ce qu'on appelle la Ménilkin, c'est-à-dire à cette espèce de grande cohorte nocturne d'âmes en peine qui sont traînées comme ça vers les enfers par un chasseur noir.
On bien en vu, monsieur Angelier.
Voilà,
bien
avec Paco Mtielman. Et je me rends compte qu'à la fin, j'ai retrouvé effectivement la Ménilkin. Donc, la famille Elkin, on peut la décrire. Il y a donc les garçons et la fille.
Voilà. Alors, une remarque. Effectivement, je suis parti pour les nommer de la Ménielquin.
Voilà.
C'est-à-dire cette chasse sauvage de fantômes, de spectres, dans la nuit, dans les forêts, qui est une diablerie. Notamment une légende qui vient de l'Artois, je crois. Et, je fais un peu comme Balzac. C'est-à-dire, dans quatre de mes romans, il y a des Elkins. Qui sont l'incarnation du mal. Dans Le Maréchal Absolu, Festin Secret, et Carnage de Clown, qui est mon premier roman. Et donc, nous avons trois frères, et les aînés, puis le petit Alastair, qui naît à peu près, qui est une sorte d'ange blond.
Oui, au départ, c'est la beauté même.
Voilà. Et puis, mais la maladie, on ne la nommait pas à cette époque. Ses os commencent à croître, sa stature aussi, il devient une espèce de géant, prognate, et très violent. Mais il est fasciné par sa petite sœur, née après, Talia, qui, pour lui, est l'incarnation de la beauté et de la pureté. Et Alastair, c'est son malheur, est obsédé par la pureté. Et notamment par les petites marchandes d'oubli.
Voilà.
Dans les foires. Et souvent des jeunes filles, des adolescentes, qui, pour lui, gardent leur pureté tout en vendant.
Alors, l'oubli, qu'est-ce que c'est, l'oubli ?
Une petite coufrette qu'on.
À la crème, non ?
Non. Qu'on vendait dans les foires, dans les rues, etc. Et il y avait des cris, comme il y avait tous les cris de Paris. Donc, demandez l'oubli, ça fait plaisir, mesdames, ça fait mourir, messieurs.
Et cette marchande d'oubli, pourquoi elle est pour vous emblématique de quoi ? De la victime du mal ? Elle est emblématique d'une espèce d'innocence perdue ?
Quand on est obsédé par la pureté, on la cherche à tout prix, et c'est le début des problèmes. Il veut revenir à cette pureté initiale, il veut devenir la marchande d'oubli. C'est une sorte de géant inquiétant, mais il veut devenir une petite fille, en fait. Et donc il va, comment dirais-je, exécuter des jeunes filles pour les faire accéder à un niveau supérieur de leur vie, par le sacrifice. Et ensuite, j'ose même pas le dire, mais il prélève leur visage pour le mettre sur lui, pour devenir la marchande d'oubli.
Je me suis souvenu de la petite prostituée qui attendait le client au coin de la rue Lepic, enchâssée dans le seuil d'un immeuble comme une sainte naïve dans sa niche. Je l'avais à peine remarquée. C'est sa voix qui m'a fait prendre conscience de sa présence. Sa petite voix enfantine et traînante, son ruisselet de voix charriant de la candeur et de la roublardise, de la lassitude et de la vulgarité. Je me suis souvenu qu'elle tentait d'attirer le chaland par une astuce qui jouait sur ce qu'il y avait en elle d'un peu puéril. Elle n'ignorait pas qu'il y a des amateurs. Sa voix psalmodiait sur un ton monotone, comme un chant d'oiseau toujours repris aux mêmes intervalles. La litanie des gamines qui vendaient ces gaufres qu'on appelle des oublis. Marchande d'oubli, v'là le plaisir, à en mourir, messieurs, à en mourir. Je me suis souvenu de sa blondeur, de son visage de gamine un peu chiffonnée, de son sourire fixe et mort, tandis qu'elle déroulait son antienne. Et j'ai pensé que peut-être la petite marchande d'oubli de la foire avait mis sur la voie du souvenir, avant même que je ne découvre Talia dans cette lumière de jadis. Je me suis souvenu qu'en abordant la petite prostituée, je pressentais que je me souviendrais de ce monument. Au cœur de sa voix se tenait l'oubli et la mémoire du futur. J'ai revu sa chambre au dernier étage de l'hôtel, la cuvette et le broc, la cheminée où grelottait un feu étique. Au-dessus du lit, un brin de buis s'accrochait derrière un crucifix et voisinait avec un chromo qui représentait des vaches, paissant au bord d'une mare ombragée par un grand arbre, près d'une petite ferme d'allure hollandaise. Tous les rêves de la grisette étaient là, toutes les mièvreries, la chaumière et un cœur, le dieu tendre et nu des femmes de mauvaise vie, le vieux désir de douceur qui ne sera jamais, jamais réalisé.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà, la petite marchande d'oubli, la petite prostituée de la rue Lepic, emblème de pureté sous les yeux du redoutable Alastair, créature du mal, fasciné lui aussi
par la pureté. Vous parliez effectivement de son habitude de prélever le visage, mais ça nous renvoie, nous sommes un mauvais genre, aux yeux sans visage de Georges Franju.
Absolument.
Où le gros Bien plan sûr. Le plus saisissant du film, c'est le moment où, lors de la fameuse opération où justement Pierre Brasseur, qui joue un médecin chirurgien hanté par la défiguration de sa fille et qui souhaite lui rendre un vrai visage, eh bien, enlève des jeunes filles, prélève le visage pour rendre à sa jeune fille sa beauté, mais rate. Joué par Edith Scope, c'est devenu légendaire. Il rate toujours et le visage se défait et on retourne à la blessure. Il y a ça, il y a aussi, je crois, dans le.
Il y a ça aussi.
Le silence des agneaux, il y a aussi le costume de chair qui est inspiré par un serial killer américain.
Et Massacre à la tronçonneuse.
Voilà, absolument.
Il y a ça aussi.
Leatherface.
Et j'ai voulu faire un peu hommage à tous les mauvais genres. Vous voyez, le boulevard du crime, etc. Oui.
Alors ça, c'est le donc Alastair qui est la victime, celui qui est tombé, mal tombé, au lieu de tomber dans le grand récipient et s'en sortir comme un diable noir, il s'est blessé et est devenu un vrai diable, non pas un diable de comédie, mais un diable psychique, un diable psychologique. Il y a ses frères qui sont là aussi pour former un petit peu le carré autour de lui, et puis il y a Talia. Est-ce qu'on pourrait dire quelques mots de Talia, puisque Talia, c'est un roman choral. Il y a les moments où c'est la voix d'Alastair qui parle. Après, c'est celle du psychiatre, de l'aliéniste. Et puis après, il y a la voix de Talia. Alors Talia, elle incarne justement cette espèce de figure angélique, de pureté, cette espèce de solitude comme ça.
Elle n'est pas angélique. C'est une femme normale, mais qui n'a pas eu de vie parce que. Alors, je me suis appuyé sur des études psychiatriques du 19e siècle, des longs articles où on décrivait des femmes endormies depuis 7 ans, 8 ans, qu'on nourrissait avec une goutte de Porto et un jaune d'œuf.
Talia en connaît la catalepsie pendant 9 années.
Voilà, donc elle tombe en catalepsie. Et elle est exposée par ses frères dans les baraques.
Elle devient un phénomène, elle devient un fric.
Voilà, la belle endormie.
La belle endormie.
Il y a eu un film extraordinaire là-dessus, justement, dont je me suis un peu inspiré, qui s'appelait, zut, ça me reviendra pas.
C'est sûr. Cherchez comme ça, continuez.
Des années 70, je le cite... Donc c'est une sorte de mythe, en effet, dont Proust parle aussi dans la prisonnière. La fascination du sommeil, parce que dans le sommeil, l'être est là, à notre portée. On peut faire n'importe quoi, mais quoi qu'on en fasse, il nous échappe. C'est ça la fascination de la belle endormie.
On revient à cette histoire aussi de domination avec le voyeurisme. C'est-à-dire que là, on domine totalement la belle endormie, finalement, même si elle nous échappe. Son Bien corps sûr. Est là, mais elle est inconsciente. Alors là, ça nous renvoie à d'un fait divers tout à fait sordide. Voilà. Mais c'est ce chose de soumission, en fait...
Au viol de Mazan.
Absolument.
Oui, parce que Talia, Talia soupçonne, je pense, Et je pense que c'est normal, mais je donne pas la réponse, que ses frères, pour quelques sous, après la représentation, voilà, bien sûr. C'est aussi un livre, j'ose le dire, féministe, si j'ose dire, sur la condition des femmes au 19e siècle. Et Talia, alors, il y a une recherche entre Charles et Talia, une recherche de qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce que l'amour absolu ? L'amour, c'est ce qu'il reste quand on a éliminé ce qui n'est pas l'amour. C'est l'équivalent de la théologie négative. Donc c'est pour ça qu'ils jouent des rôles sans arrêt. Ils se mettent dans des rôles et, ah non, ça marche pas. Ça, on va l'éliminer. Ça marche pas. On va l'éliminer. Et qu'est-ce qu'il reste à la fin ?
Mais il y a une aussi, peut-être.
Talia dit à Charles, mais est-ce qu'on peut aimer quelqu'un, une femme, quand elle n'est pas un vrai sujet ? Parce qu'une femme n'est pas un vrai sujet à la fin du 19e siècle. Voilà, c'est la question qu'elle se pose. Donc, c'est pas une victime. Hein. Au contraire, elle est assez acide. Elle pousse Charles dans ses retranchements.
Alors, elle forme un couple dans La Marchande d'oubli, Pierre Jourde, avec le psychiatre Charles. On pense d'ailleurs à l'émission qu'on avait faite et au spectacle qui était lié avec Céline Duchesnay, donc sur Pierre Janet et sa patiente, qui avait des décennies avec laquelle il avait travaillé, qu'il avait observé pendant des décennies. C'est un couple fréquent, même il y aura Lacan avec Le Cas Aimé, il y a toute une espèce de... Et là, il y a aussi une grande scène chez Charcot, mais Charcot épuise, on peut dire, les patientes comme des cas secondaires. Là, il y a véritablement, comme la chair à canon, il y a la chair à psychiatre. Et là, on a quelque chose d'étonnant, puisque quand elle sort de sa catalepsie, et puis elle part avec ce psychiatre, Charles, et là, se crée un couple, mais un couple qui est en quête, effectivement, de quelque chose dont vous parliez, qui est une forme d'amour, de désir, une espèce de quête érotique et psychique.
Ils se racontent des histoires et des histoires sans arrêt pour trouver la réalité de ce qu'ils vivent. Parce que je pense qu'un écrivain doit se poser la question tout le temps, du moins, il ne doit pas être en position, la réalité exacte existe et je la traduis en mots. C'est pas ça du tout. Quelle est la réalité? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on appelle comme ça? Et c'est ça le rôle de l'écrivain. Trouver ce qui est réel. Et en fait, je pense que c'est le contraire. On pense que la littérature traduit en fiction la réalité, mais c'est le contraire. La réalité est un problème et la fiction tente de l'atteindre. Est-ce que c'est j'essaye d'exprimer là-dedans? C'est d'ailleurs ce que disait Proust.
Sean.
Et c'est de l'atteindre par la manière. That's the way to do it. C'est-à-dire la manière, c'est l'écriture. En fait, finalement, c'est alors vous faites un roman qui est réaliste, mais avec des lignes de fuite dans l'horreur, les gothiques. Mais en fait, pour moi, c'est aussi une réflexion sur la littérature même. C'est se raconter des histoires et le style et la manière. Parce qu'il y a des tableaux. Moi, ça me fait penser, vous parliez de films, mais moi, ça me fait penser à Odilon Redon, mais aussi à d'une manière anachronique, à Balthus, ces scènes érotiques, ces jeunes filles de Balthus, etc. Il y a ce côté-là. Et donc, en fait, raconter l'histoire, c'est faire de la réalité, c'est tisser comme Pénélope, en fait, le récit.
Je n'ai jamais écrit une seule fois un livre où il y a un narrateur hors de la fiction et qui décrit la réalité, comme si elle existait. Ça, c'est ce qu'on appelait le roman réaliste, mais ce n'est pas réaliste. Qui parle comme ça? Qui est hors de la réalité pour parler de la réalité? Tous mes romans sont des discours, en fait, des gens qui parlent à d'autres. Et c'est la vraie question. Qui parle et à qui on parle? Et ça, c'est le vrai réalisme, en fait. Et donc, mes personnages, Alastair parle à Charles, qui rapporte ses propos à Talia, qui, à la fin... On s'en aperçoit à la fin, rapporte les propos que Charles lui a dit et qu'il rapporte à Alastair qui vient à la fin.
On est tous ventriloques dans votre...
Exactement, elle était ventriloque, en effet.
Thank you.
Pierre Jourde, notre invité ce soir dans Mauvais Genre, pour La Marchande d'oubli, un formidable roman qui paraît chez Gallimard. Alors, un roman qui est un roman aussi des lieux, et quand je dis des lieux, c'est des espaces, parce que ça peut être des lieux très restreints. Alors, il y a le chapiteau, la scène du cirque, où la famille Elkin se produit, chapiteau prestigieux, ou petit cirque de province itinérant. Bon, ça, c'est un premier lieu. Il y a la salle d'études du professeur Charcot, où défilent les folles hystériques, et où on se livre à des réflexions théoriques sur le corps et la folie. Et puis, alors, il y a cette commune extraordinaire d'Alon. On dit Saint-Genès ou Saint-Genès ?
Saint-Genès.
Saint-Genès, non pas comédien et martyr, mais oui, lieu d'abri et de refuge pour Talia et Charles, puisque Talia, donc le membre féminin de la famille Elkin, a fui en compagnie du psychiatre, de l'aliéniste à l'époque, Charles, donc à Saint-Genès. Et alors là, c'est tout à fait extraordinaire, puisqu'on se trouve dans une petite ville de province dont vous essayez d'extraire au maximum la quintessence du mystère, de l'angoisse, à la fois. Et alors là, je pense effectivement à des gens comme aussi bien Barbé d'Aurevilly et ses romans qui se passent dans le Cotentin de la Restauration.
Exactement.
Avec cette coutance à l'automne, comme ça, avec le bruit des cloches et des choses. Ou alors Jean Rey, de Malpertuis
sûr.
Ou de la
bien
cité
sûr.
De l'indicible peur. J'aimerais que vous nous parliez de Saint-Genès, parce que c'est beaucoup plus qu'une sorte de lieu où on va chercher l'anonymat, c'était véritablement un autre lieu du mystère et un autre lieu de la légende, du mythe et de la folie.
Beaucoup de mes romans se passent dans des petites villes de province, pour une raison, c'est que d'une part, c'est une sorte de concentré. Tous les gens se connaissent, tous les gens parlent des uns et des autres. Donc, en fait, une petite ville de province, c'est un concentré de... Elle est infectée de fiction, en fait. Et c'est Saint-Genès est ça. Et du coup, Charles et Talia se construisent une fiction qui est acceptée ou pas, par les habitants, il y a des ragots par les cuisinières, ce qui est surtout important aussi dans le roman, c'est pas seulement Saint-Genès, c'est la maison. Ils achètent une maison, une vieille maison du XVIIe siècle, où ont vécu un couple un peu suspect, qui semblait donner dans l'occultisme et qui ont disparu. La maison est tellement grande qu'ils négligent de tout explorer. Et donc, il y a des étages, on ne sait pas très bien ce qu'il y a. Un soir, par hasard, Charles découvre, c'est un classique du fantastique, une petite chambre qu'il ne connaissait pas, où l'accès était un peu difficile. Il y a aussi, alors je vous dirai pas ce qu'il y a dans la salle, mais il y a aussi une bibliothèque où il y a notamment beaucoup de livres d'occultisme, d'hermétisme, et il se plonge là-dedans, et ça alimente encore l'espèce de déchaînement d'interprétation que fait Charles de leur couple et de ce qui lui arrive.
Parce qu'il décide donc vraiment d'instrumentaliser, entre guillemets, la commune, au lieu d'en faire une sorte de refuge anonyme, où on joue l'anonymat, où on se fond dans la communauté villageoise pour jouer qu'au contraire, être l'homme comme un autre, toujours. Là, au contraire, ils en font véritablement un théâtre. Et là, le théâtre est là en permanence, dans cette marchande d'oubli.
Exactement.
Il y a le théâtre tel qu'il est, c'est-à-dire éventuellement le cirque, les numéros de cirque, et puis moi, c'est ça, ça m'a fasciné, cette capacité de théâtraliser ce petit village et d'en faire une espèce de scène aussi. Parce que tout devient... Ça, c'est très horrible.
Ce qui les excite, c'est les fictions que vont tisser les habitants de la ville, qui sont très catholiques, bourgeois, etc. Ils vont imaginer quelque chose autour d'eux et ça, ça les excite. Et d'ailleurs, Charles a des fantasmes. Il veut qu'ils apparaissent le soir aux fenêtres, nus, etc. Donc c'est effectivement tout un théâtre.
Ben oui, alors il y a aussi du théâtre shakespearien, donc vous faites quand même, vous en qui effet. Êtes spécialiste quand même de la littérature française, là vous avez fait un hommage aussi à la littérature anglaise, il y a beaucoup d'anglais, oui. J'ai cité cette phrase anglaise, mais en fait en anglais, mais ça revient comme voilà, un leitmotiv aussi.
Il y a, il y a beaucoup de poésie anglaise, un poème de Heine, allemand, magnifique. Des poèmes de Dante. il y a un peu tout.
Un fumet révoltant émanait de ce tas de chair et d'ombre qui s'emparait de tout l'espace du compartiment, le bondait d'ordures, annexait l'esprit stupéfié, s'installait au cœur de l'intimité, vous remplissait, on ne pensait plus qu'à ça, ce corps exorbitant vous pénétrait par l'odeur, vous soumettait, on devenait pourriture soi-même. Et lui, la tête courbée comme un ange en deuil, déplorant les péchés et la perdition des hommes, se décomposait sans doute, se trouvait depuis l'origine en décomposition, accompagnant, prenant sur lui toute la putréfaction du monde. Il était l'ange pourrissant qui attendait depuis la création l'ultime puanteur, l'apocalypse des charognes, la résurrection des corps brandissant leurs lambeaux avariés, le surgissement de la bête au sein des eaux, les gueules déversant leurs blasphèmes comme de noires flatulences, le trou du cul articulant un langage de vent térébrant, foirant des discours emphatiques qui dissolvaient toute croyance et toute valeur. Voilà la rencontre entre Charles et Alastair au début dans un compartiment de train. Et voilà ce qu'il en sort, c'est-à-dire cette extraordinaire description du grand putride, c'est-à-dire de l'ange morne, de l'apocalypse des charognes. Il y a quand même, alors justement, on parlait d'une écriture réaliste, il y a quand même un goût chez vous étonnamment violent de la... Je dirais de l'incarnation littéraire, Pierre Journe. On sent que tout est l'objet d'une sorte véritable de peinture au couteau. Il y a une épaisseur charnelle dans la phrase, dans les mots, dans la vision. Il y a véritablement une appréhension lourde et comme ça violente des choses au travers de la littérature.
Évidemment, celui qui m'a influencé du point de vue du style, c'est Huysmans. Et surtout, son idée maîtresse, c'est le naturalisme idéaliste. C'est-à-dire, on ne va pas vers l'esprit, et pour lui, vers Dieu, vers l'au-delà, en effaçant le corps, mais en allant jusqu'au bout du corps.
Absolument.
C'est jusqu'au bout du corps qu'on déboule dans l'idéal. Et c'est un peu ce que, effectivement, l'incarnation, c'est très important pour moi. C'est en travaillant le corps qu'on tire quelque chose.
Absolument.
C'est la chair de l'écriture, c'est cette manière qui donne toute cette matière. C'est pour ça que réaliste, ça me fait penser à votre préface justement en folio à rebours, oui. Où justement vous dites est-ce Huysmans réalisme d'interrogation, oui, symboliste. En fait. Qu'est-ce que c'est le réalisme ? C'est ce que vous disiez. Est-ce que c'est vraiment d'écrire d'une manière exhaustive, un peu clinique et un peu plate finalement les choses de l'extérieur ou justement les incarner ou les incarner de manière sensorielle.
Oui, oui, oui. Alors un mot à part sur l'intervention de la psychiatrie. Parce que je me suis intéressé, du point de vue universitaire, il y a quelques années, avec Paolo Tortonese, sur le thème du double dans la littérature. Donc nous allons chercher beaucoup, dans la psychiatrie, les cas de double personnalité. Il y en avait beaucoup à cette époque. Et effectivement, Alastair est un homme qui a plusieurs personnalités. Et donc, Charles, l'aliénis, s'intéresse beaucoup à son cas, même s'il en a peur. Et en fait, Alastair est un homme, est une femme. Il a plusieurs noms. Alastair, Punch,
Harlequin,
etc. Et en fait, mon idée, c'est que, comment dirais-je, je ne m'intéresse pas à la psychologie. Je ne m'intéresse pas du tout. Comme Sartre disait... La psychologie. Non, je m'intéresse au mythe, je m'intéresse à l'être, et je pense qu'on peut, quand on est écrivain, on doit être tout le monde. Et Alastair est tout le monde, en fait. C'est l'incarnation de tout le monde.
C'est Légion, donc c'est comme on dit. Mon nom est Légion, c'est une espèce de pluralité ouverte du mal.
Mon nom est Légion, c'est le diable.
Voilà, c'est ça,
en effet. Exactement.
Et la duplicité, diable, c'est la duplicité.
Oui. Alors maintenant qu'on a évoqué un peu l'univers de cette marchande d'oubli, quelle en a été l'histoire, Pierre Jourde? Combien d'années pour écrire cette basilique majeure de la littérature mauvais genre, gothique et apocalyptique?
On m'a diagnostiqué, il y a 3 ans, un cancer de la moelle des os. J'avais juste commencé ce roman, enfin quelques idées, quelques pages, et je l'ai écrit sous chimio pendant 3 ans, plus 2 fois 3 semaines en chambre stérile.
Vous écriviez ce livre dans ces conditions?
Oui. Parfois sous morphine. Alors ma femme dit, écoute, il faut peut-être effacer ce que tu as écrit sous morphine parce que c'est mauvais. Donc je pense qu'elle avait raison, oui. Oui, mais il reste peut-être quelque chose. D'ailleurs, il y a une scène où Charles prend de l'opium.
Absolument, oui, on parle de
comme faisaient beaucoup d'écrivains à cette époque. Oui, je l'ai écrit comme ça, oui.
Donc vous parliez d'aller au bout du corps pour essayer de trouver une sorte d'éclair du divin.
Voilà.
L'expression « aller au bout du corps » est tout à fait, comment dirais-je... On sait de quelle extrémité il est question dans ce roman.
Oui, je venais juste de finir l'édition Pléiade de Huysmans. C'est tombé sur moi et hop, j'ai écrit « La marchande ».
Et puis, en fait, c'est émaillé, en plus de ces scènes extraordinaires, des phrases qui tombent un peu comme des apophthegmes. Alors, c'est pourquoi on ne peut atteindre Dieu que dans ses créatures. Et, il y a des petites sagesses comme ça qui sont émaillées le long de ce grand monument.
C'est un classique de la théologie.
Absolument.
La marchande d'oubli de Pierre Jourde, un extraordinaire roman paru aux éditions Gallimard et qui devrait et qui doit et qui plaira à tous les amateurs de mauvais genre, que vous soyez amateurs de Huysmans, de Jean Lorrain, de Todd Browning, de David Lynch. C'est véritablement une sorte de grand compendium de toute la sensibilité et de tous les émois mauvais genre qui soit possible d'envisager. La marchande d'oubli chez Gallimard. Avant d'entendre nos chroniqueurs, je voudrais tout d'abord saluer la mémoire et rendre un hommage franc et fervent à Jean-Pierre Bouixou qui nous a quittés cette semaine. Jean-Pierre Bouixou qui a été pendant de nombreuses années chroniqueur, ami et compagnon de route de cette émission. Jean-Pierre Bouixou, disciple de Jean Boulet et de Pierre Molinier, ami intime de Jean Rollin. Jean-Pierre Bouixou qui a écrit parmi les premiers livres les plus importants sur le cinéma et la science-fiction. Il qui a écrit aussi « Le grand témoin des années 70 » avec son aventure hippie, journaliste, spécialiste du cinéma érotique et pornographique, d'ailleurs qui a été cinéaste lui-même et acteur, Jean-Pierre Bouixou, à qui nous devons le témoignage que nous avions diffusé il y a quelques années d'un entretien avec Jess Franco, donc un personnage essentiel dans l'histoire des mauvais genres et l'histoire de ce magazine. Je tenais à lui rendre un grand hommage et à saluer sa mémoire. Nous n'oublierons pas Jean-Pierre Bouixou. La preuve en est d'ailleurs un des salles du Forum des Images où a lieu en ce moment l'étrange festival a été nommé, j'imagine, pour la durée du festival, salle Jean-Pierre Bouixou, l'étrange festival où vous étiez pour nous, comme depuis chaque année, Sixtine Audebert.
Oui, vous alors... coupez l'herbe sous le pied, j'allais le dire. Effectivement, ah, bah voilà. La salle 300 a été renommée salle Jean-Pierre Bouixou pour l'occasion. Bon, effectivement, c'est un grand deuil qui affeuble, affuble toute la communauté. Ouais. Mais ça n'empêche pas l'étrange festival de se tenir et peut-être même de se tenir à plus forte raison en hommage à Jean-Pierre Bouixou. Donc, l'étrange festival remet le couvert pour une 31e édition qui n'est, ma foi, toujours pas piquée des après un 30e anniversaire que nous avions célébré dûment en ce studio l'an passé. Alors, retour rapide sur la première courte semaine, puisque je rappelle que la date de début, c'est le mardi 2 septembre, donc le festival vient tout juste de commencer, et les grands événements arrivent, mais vous avez tout de même manqué la lecture en ambiance post-apocalyptique de l'apôtre des ténèbres qu'on ne présente plus ici, Christophe Siébert.
Salut à lui.
La soirée spéciale poupée gonflée du maître Beer.
Salut à lui.
Et surtout, la rencontre avec Son Altesse des Profondeurs, la sublime Barbara Steele, qui était là pour présenter le Ricardo Freda nécrophile Le Secret du Professeur Hitchcock et le long métrage séminal de David Cronenberg, Frisson. Mais rassurez-vous, il reste du très bon, même de l'excellent à venir, avec notamment les premières des nouveaux films du Kazakh, alors Adilkhan Yerjanov, qui sont aussi ses premiers longs métrages à tendance horrifique. C'est un personnage régulier du festival, il a l'air presque chaque année, et il donne à l'occasion de ses sorties, une carte blanche absolument impeccable. Alors, il y a Enfant de Salaud d'André de Toth, Fatal Games de Michael Lehman, Six String Samurai de Lance Munga, pour vous donner un aperçu court. Il y a un autre invité de marque, qui est Stéphane Sayadian, qui est là pour la restauration de ses pornos psychédéliques Café Flèche et Docteur Caligari, et qui projettera lui aussi quelques bizarreries claustro-gothiques, dont Les Diables de Ken Russell, donc je sais, François, que vous raffolez, et certes, le Docteur Jekyll dans sa version de Borovchek, qui est pour le moins singulière. Enfin, La Spirale est là, partenaire historique du festival, elle fête elle aussi sa belle trentaine, avec du japonisme extrême, du docu-rock à propos de deux groupes mythiques, les Butthole Surfers et Rock Beach, et de la SF barrée, notamment l'adaptation du Substance Mort de Philip K. Dick par Linklater. Alors, comme je suis envoyée sur le terrain aussi par Manouvi, je prospecte les nouveautés. Et il y a le lot habituel de polar coréen, de thriller autrichien, de comédie d'horreur. Et il faut noter, parmi toutes ces belles choses, le film qui est un premier film de Grégory Morin, Flush, qui est un réalisateur au parcours touchant, puisqu'il a été lui-même spectateur depuis 20 ans de l'étrange festival, et qu'il prend donc la caméra avec l'infusion très dense de toute cette cinéphilie. Et c'est un film d'1h10 avec la tête dans le trou des toilettes turques d'une sous-sol d'une boîte. Un mix entre le Very Bad Trip à la Gaspar Noé Noé et l'univers absurde à la Dupieux, avec une apparition, dirons-nous en ces termes, du maître Beer.
Ah.
Et donc, je vous le recommande chaudement, puisque suite à une déconvenue, il repasse, alors qu'il ne devait pas repasser, demain à 21h30. Donc, à vos carnets,
à
pour
vos
demain
carnets.
Soir. À voir absolument, car on ne sait pas si cette perle sortira en salle. Et bonne indigestion, bien sûr, avec cet étrange festival qui dure jusqu'au 13 septembre.
Absolument. Et moi, je vous recommande demain à 17h de Mafou Cage. Je ne vous en dis pas plus. Chaudrose.
Alors, mon choix est... se porte sur Peau d'ours, ours au féminin. Ça ressemble un peu à Peau d'âne, c'est comme un conte. En fait, c'est un conte avec une fée un peu carabosse qui allait jeter un sort sur la pauvre Nina, qui est grosse et hirsute, et même touchée par une espèce d'hirsutisme, je vais y arriver. Et les poils y poussent partout. Elle est... adolescente, et elle est amoureuse de la belle Kelly. Alors, elle habite dans les Pyrénées, dans un village perdu. Elle s'appelle d'ailleurs Montperdu, c'est son surnom, la pauvre, personne ne l'a appelée autrement, parce que elle est grosse et lourde. Donc, en fait, c'est un roman qui est absolument savoureux, parce que Le Floc réussit à faire à la fois ce jargon de jeune, en fait, espèce de gouaille juvénile, qu'il mélange avec, en fait, une vraie écriture, une vraie narration, qui fait que cette jeune femme, jeune fille, en fait, part un peu attirée par les voies de la forêt. On est dans les Pyrénées, il y a la fête de l'ours, comme on sait. Il y a une légende d'une femme sauvage qui serait accouplée avec un ours. Il y a tout ça. Et c'est surtout très bien fait, parce que cette jeune femme, jeune fille qui se transforme, en fait, mais c'est sur une forme de transformation qui est peut-être la transformation qui est celle de tous les adolescents, finalement. On devient des monstres, hein, finalement, dans l'adolescence. Et ce côté mutant est très bien...
Malaster.
Ah oui, est très bien rendu par Gréo Le Floc, qui réussit à la fois combiner cette langue de jeune et cette narration qui est un peu de conte, en fait, et avec des aspects de la nature dans les Pyrénées.
Oui, c'est tout à fait d'accord. C'est une sorte de conte de fées horrifique moderne où on voit une jeune fille mise au banc de la communauté se transformer en ours et devenir, ça devrait vous intéresser, Pierre Jour, de ça, cette espèce de mutation apparemment monstrueuse, mais qui est une forme d'accomplissement, c'est ça. Donc c'est à comment dirais-je, quelque chose de tout à fait intéressant. Je reviens sur l'étrange festival. J'ai vu voir cet après-midi Theater of Horror de David Gregory.
Un documentaire
sur le Grand Guignol. On voit d'ailleurs notre ami François Rivière, on voit aussi Christophe Lemaire, et ça recoupe tout un tas.
Et aussi
de...
Monsieur Bouixou. Hein,
et Jean-Pierre Bouixou, ouais. dont nous parlions, à qui nous rendions hommage il y a quelques minutes. C'est enfin un très bon documentaire sur le Grand Guignol. J'espère qu'il sera diffusé à la fois et au cinéma et à la télévision, si possible, parce que ça mérite tout à fait, et qu'un DVD nous sera offert justement bientôt avec ce Lobster Serge Brombert sur les documents filmés du Grand Guignol. Absolument. Merci Pierre Jour d'avoir été ce soir l'invité de
Merci.
Mauvais Genre. Je recommande bien évidemment, lisez, relisez, faites lire et faites relire La Marchande d'oubli. C'est un des très grands romans de cette rentrée littéraire. L'étrange festival, c'est jusqu'au 13 septembre à la Forum des Images à Paris. Donc, et puis Peau d'ours de Grégory Le Floc.
Aux éditions du Seuil.
C'est aux éditions du Seuil. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Paul Ré, Guillaume Ficheux, Claire Poissignon, Sixtine Audebert, Claire Martin-Dugard et Chaune Rose vous remercient d'avoir suivi Mauvais Genre. On se retrouve la semaine prochaine où je serai en compagnie, les Huysmanciens sont parmi nous, d'Agnès Michaud pour Huysmans vivants aux éditions du Cherche Midi. Merci encore à vous Pierre Jourde et merci à toutes et à tous d'avoir écouté Mauvais Genre.